Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le voyage à la Mecque est non seulement l'un des cinq piliers de l'islam, mais également une source de grande satisfaction pour chaque pèlerin. C'est aussi l'un des plus grands rassemblements humains de la planète, avec ses enjeux, ses querelles de pouvoir, ses problèmes d'organisation. Nous en parlons avec l'historienne française Sylvia Chifolo, auteure d'une étude passionnante et très documentée chez l'éditeur Belin. Nous verrons également comment les imams de la Mecque prennent le pouls de leurs fidèles par le biais de comptes Twitter très actifs. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Sylvia Chifolo, bonjour.
Bonjour.
Chargée de recherche CNRS en histoire contemporaine à Lyon. Vous avez publié Le voyage à la Mecque, un pèlerinage mondial en terre d'islam chez Belin, collection Histoire. Un ouvrage dans lequel vous replacez ce rassemblement humain dans l'histoire des récents empires coloniaux. Quel était l'enjeu pour ces empires, qu'ils soient français, russes, britanniques ou turcs?
Eh bien, gérer du religieux, gérer des mouvements de personnes. Donc, évidemment, la colonisation s'accompagne aussi de la mise en place de frontières, hein, puisque précédemment, les pèlerins circulaient dans un espace qui était essentiellement l'espace ottoman, dans lequel il n'y avait pas de frontières et donc pas d'imposition particulière pour se déplacer. Donc là, désormais, on va en pays étranger quand on se rend à la Mecque, donc au Hedjaz, qui est toujours province ottomane. Et donc, il faut des papiers administratifs, des passeports, des conditions de départ, etc. Donc gérer ce voyage à la Mecque par désormais les pouvoirs coloniaux.
Alors justement, vous parlez d'ordre colonial. Quel est cet ordre ?
Eh bien, c'est parce que c'est un contrôle, en réalité, évidemment. Le religieux inquiète, alors plus ou moins, selon les cultures coloniales. Donc, on laisse plus ou moins de liberté au déplacement des pèlerins. Mais c'est un ordre dans le sens où c'est un ordre administratif, avant tout, hein, pour les pouvoirs coloniaux qui, eux, gèrent cela au départ, hein, puisque ce sont ensuite les pouvoirs ottomans et les pouvoirs du Hedjaz qui, ensuite, gèrent l'intérieur du territoire sacré. Donc, c'est un ordre administratif, administratif et aussi des conditions de circulation, puisqu'on gère aussi les moyens de transport.
Alors, en contrôlant administrativement ce pèlerinage, n'y a-t-il pas également l'ambition de moderniser une pratique qui était jusque-là jugée plutôt archaïque, hein ?
Le moment même du rituel ne bouge pas, encore que évidemment il est quand même traversé par les éléments de la modernité, mais c'est pas une volonté de le moderniser, puisque la modernisation elle arrive par les nouveaux moyens de transport. Donc en fait c'est au contraire les pèlerins qui eux-mêmes très rapidement s'adaptent aux nouveaux moyens de transport, savent en jouer d'ailleurs de façon très habile pour échapper parfois justement au contrôle colonial. Donc c'est plutôt l'apparition de ces moyens de transport qui transforme les conditions du voyage et qui de facto les modernise. On abandonne la caravane au profit de la navigation à vapeur, de bateaux de plus en plus gros, de mieux en mieux équipés. Et là, c'est aussi, dans une certaine mesure, le rôle des pouvoirs coloniaux que de donner des conditions de voyage décentes. Hein. Et puis ensuite, c'est le train. Plus tard, ce sera l'avion. Donc voilà, c'est les moyens de transport qui modernisent le voyage.
Et est-ce que grâce à ces moyens de transport, on vient de plus en plus loin pour faire ce pèlerinage ?
On vient de plus en plus loin, de plus en plus nombreux de ceux qui viennent loin, en particulier les pèlerins qui viennent des périphéries de l'islam, hein, de l'Asie du Sud-Est, qui avant devaient faire un voyage très long en voilier avec les vents de mousson qui sont très contraignants. Et donc là, avec la vapeur, eh bien effectivement, ils peuvent venir plus nombreux, en meilleures conditions, plus de sécurité. Et donc c'est surtout l'augmentation numérique de ces pèlerins d'Asie qui est notable avec l'apparition des moyens de transport modernes.
Est-ce qu'on peut dire qu'en contrôlant finalement cet ensemble de pèlerins qui viennent de plus en plus loin, les empires légitiment leur action ?
Bien sûr, c'est effectivement un des objectifs de ce contrôle. Alors, il est un peu ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois on contrôle pour qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, les Français sont assez inquiets sur la question du pèlerinage. On craint que les pèlerins n'aillent se ressourcer d'un point de vue religieux, mais surtout politique, hein, le panislamisme, comme on l'appelait à l'époque, et donc ne reviennent, selon le vocabulaire de l'époque, plus fanatiques qu'on était parti. Donc, c'est évidemment un contrôle de ce point de vue-là. Et puis aussi, de plus en plus, le temps passant, c'est aussi un enjeu effectivement de légitimité, dans le sens où offrir de bonnes conditions aux pèlerins permet effectivement de dire nous sommes une nation attentive à ces sujets musulmans et nous leur offrons de bonnes conditions. Et donc ça précise après la Première Guerre mondiale essentiellement.
Alors, est-ce qu'il y a des risques particuliers à permettre à tous ces pèlerins d'aller faire ce pèlerinage à la Mecque ? Est-ce que, par exemple, des problèmes politiques ou des problèmes sanitaires peut-être ?
Alors, beaucoup plus de problèmes sanitaires que de problèmes politiques en réalité, même si ce sont précisément ces problèmes politiques qui inquiètent les puissances coloniales. Par contre, l'enjeu sanitaire, lui, il est très présent, hein, puisque le pèlerinage à la Mecque se trouve être au XIXe siècle une sorte de hub, de redistributeur des épidémies, hein, lesquelles, surtout pour le choléra, viennent d'Inde, et donc il y a en fait au moment du pèlerinage une redistribution des épidémies et donc un danger sanitaire effectif. Donc là il y a un contrôle mais qui est plus au niveau international, hein, les pays européens, les puissances européennes, coloniales et non coloniales, se mobilisent pour essayer justement de contrôler sanitairement le pèlerinage.
Et ce risque aujourd'hui encore persiste, hein ?
Ce risque persiste bien sûr, mais maintenant il y a évidemment un contrôle très... Chaque année l'OMS publie en fonction des maladies qui sont signalées ou qui peuvent menacer le pèlerinage. Il y a des vaccinations obligatoires, c'est encore contrôlé, mais la méningite a fait jusqu'à récemment des victimes de façon importante au pèlerinage, mais c'est étroitement surveillé en effet.
Sur le plan politique, est-ce que lorsqu'il y a la montée des nationalismes dans cette région moyen-orientale, les pèlerins qui vont à la Mecque ramènent certaines idées nationalistes dans leur pays d'origine ?
Des idées nationalistes, avant des idées plus panislamistes. Évidemment, c'est un endroit où se brassent toutes les pensées qui traversent le monde arabe. Donc, on discute beaucoup, évidemment, on échange. Alors bon, il y a le fait que les pèlerins parlent des langues différentes, donc la communication n'est pas toujours évidente. Mais évidemment, c'est un lieu où on parle politique. Mais c'est très contrôlé par le pouvoir local du Hedjaz, quel qu'il soit, que c'était les Ottomans, puis le pouvoir du shérif Hussein de la Mecque, et ensuite les Saoudiens, de garder un contrôle étroit sur la parole politique qui se dit au sein du pèlerinage, donc qu'il n'y ait pas de manifestation politique au sein même du pèlerinage, qui doit rester un événement religieux.
Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit l'Arabie Saoudite, le royaume saoudien qui ait repris la main, en quelque sorte, sur l'organisation de ce pèlerinage, ça a changé quelque chose ? C'est quelque chose qui date de la montée des Saouds dans les années 20.
Oui, tout à fait. Quand Ibn Saoud conquiert le Hedjaz, le pèlerinage a été très mal géré précédemment donc par son prédécesseur, le shérif Hussein. Donc c'est justement pour lui aussi un élément de légitimation. C'est-à-dire, le pèlerinage est désorganisé, je vais m'en occuper. Et donc effectivement, ça a depuis le début, depuis 1925, servi d'élément de légitimation pour son pouvoir et ça continue à l'être aujourd'hui. Légitimation d'autant plus nécessaire que les Saouds ne sont pas descendants du prophète, donc ils ont un déficit de légitimité au départ, et donc ce qui effectivement peut leur être reproché, effectivement.
Ce sont eux d'ailleurs qui, les premiers, modernisent, si on peut dire, puisqu'ils autorisent par exemple à venir faire le Hajj en voiture.
Voilà, il y a eu une modernisation qui n'a cessé évidemment de se préciser depuis lors. Ça a été d'abord effectivement l'introduction de la voiture qui a finalement donc complètement supprimé les caravanes à l'intérieur même du territoire sacré, et puis ensuite toutes les constructions, surtout après la Seconde Guerre mondiale et l'apport de l'argent du pétrole, évidemment, qui a permis ce développement aujourd'hui gigantesque et hallucinant presque du pèlerinage.
Alors aujourd'hui, ce droit des Saoudiens à organiser ce pèlerinage qui est à la Mecque sur leur sol, donc, est contesté notamment par les Iraniens. Notamment cette semaine, Ali Khamenei, le chef suprême religieux en Iran, a fustigé la façon dont les Saoudiens gèrent le pèlerinage. Que peut-on en penser de cela ?
Alors c'est une histoire qui date justement de l'arrivée des Saoudiens au pouvoir, puisque d'entrée de jeu, donc il y a évidemment cette opposition sunnite-chiite qui était quand même moins forte qu'elle l'est devenue ces derniers temps, mais qui a toujours existé, qui a traversé l'histoire de l'islam et qui se focalise un petit peu au moment du pèlerinage. Les Iraniens y ont quelques rituels qui sont un peu différents, donc effectivement ils sont considérés de façon un peu étrange par les autres pèlerins. Et dès la prise de pouvoir des Saouds, les Iraniens ont été les premiers à contester effectivement cette mainmise sur le pèlerinage. Les trois années qui ont suivi l'arrivée au pouvoir des Saouds, les Iraniens comme aujourd'hui ne se sont pas rendus hein, par interdiction de leur autorité politique de se rendre au pèlerinage pour contester justement cette mainmise saoudienne. Après la révolution iranienne, évidemment, c'est reparti à la hausse, puisque le nouveau régime des mollahs a vraiment voulu faire du pèlerinage un moment explicitement politique, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas bien vu par les Saoudiens, qui veulent garder la main sur ces aspects-là. Et donc, là, il y a de nouveau des montées en puissance de l'hostilité entre les deux. En 87, donc, une manifestation de chiites à Médine a été réprimé fortement par les Saoudiens. Donc voilà, c'est un problème récurrent. Et puis là, l'année dernière, effectivement, le fait que de nombreuses victimes dans l'accident qui a eu lieu à Mina aient été des Iraniens a relancé cette vieille opposition. Et effectivement, là, ça prend des proportions assez importantes.
Mais c'est plus une opposition, selon vous, politique que religieuse?
Les deux se croisent, évidemment, mais c'est au prétexte du religieux et justement de ne pas pouvoir arriver à imposer les conditions de pratique du pèlerinage que la contestation se fait. C'est-à-dire que au nom de quoi vous m'imposez de ne pas réaliser mes rituels tels que je voudrais les réaliser. Donc, vous gérez mal le pèlerinage, qui est normalement le lieu où est accueillie la Oumma tout entière, la communauté des croyantes. C'est un lieu de liberté, même si les rituels sont codifiés. Et donc, vous n'êtes pas légitime, d'autant plus que vous êtes un pouvoir corrompu. Enfin, etc.
Donc, on pourrait envisager une autorité indépendante qui gère le pèlerinage.
Les Iraniens ne sont pas les seuls à remettre en question donc cette autorité des Saoudiens sur le pèlerinage. Par exemple, aussi en Indonésie, hein, il y a d'autres mouvements, hein, d'autres de plus en plus d'ailleurs, de voix qui se font entendre pour réclamer effectivement peut-être d'essayer de penser, de commencer à réfléchir à une solution alternative. Mais évidemment, il est bien clair que les Saoudiens ne se laisseront pas faire.
Merci Sylvia Chifolo. Je rappelle que vous êtes chargée de recherche CNRS en histoire contemporaine à Lyon. Et je renvoie à votre ouvrage, Le Voyage à la Mecque. Un pèlerinage mondial en terre d'islam publié chez Belin.
Merci.
Comment les imams de la Mecque communiquent-ils avec les fidèles qui viennent au pèlerinage? Voici ce qu'en dit Romain Abi, géopolitologue, il est spécialiste de l'Arabie Saoudite.
Les imams de la Mecque, ils ont certaines limites. Comme tous les imams saoudiens, ils ont des lignes rouges à ne pas franchir, notamment sur les questions politiques. Par contre, les imams qui officient pendant les périodes de pèlerinage ont un rôle particulier, puisque même si on est face à des millions de pèlerins qui arrivent et qui vont forcément avoir une pratique de la religion très enthousiasmés sur le moment, qui vont prier parfois dans des environnements où il y a beaucoup de monde, ils ne vont pas avoir un contact direct avec les imams. Par contre, là où ils ont un contact avec les imams, c'est à travers les prières qui sont diffusées dans les haut-parleurs. Et je sais par expérience, avec des personnes que je connais qui ont été faire le pèlerinage, qu'un imam comme El Soudaïs, par exemple, qui a une voix très appréciée par les musulmans, reste dans la mémoire des musulmans qui font le pèlerinage. Et il y a un lien presque sentimental qui se crée avec ces imams-là, puisque c'est une voix qui a marqué un moment important de notre vie de croyant à ce moment.
Et il y a un imam qui a une communication tout à fait personnelle, voire très inhabituelle, c'est Adel Al-Kalbani.
Al-Kalbani, voilà. Adel Al-Kalbani, c'est une personnalité, on peut dire un ovni parmi les imams saoudiens, puisqu'il a été, c'est un imam noir. Pour l'Arabie saoudite, c'était une nouveauté. Il a été nommé à l'époque par le roi Abdallah, donc au moment où Abdallah était encore, il régnait sur l'Arabie saoudite, il l'a nommé imam de la Mecque. Et donc cet imam était relativement nouveau. Et il avait par moment une communication un peu trop libérée, ce qui a pu gêner à certains moments la monarchie saoudienne. Donc voilà, il y a différents imams qui sont connus en Arabie saoudite. Soudaïs, il y a l'imam Ayoub qui est décédé cette année également, qui marque la vie des croyants lors des périodes de pèlerinage ou même sur la période de Umra qui s'étend maintenant sur le petit pèlerinage qui s'étend toute l'année.
Et Adel Al-Kalbani, lui, n'est plus à la Mecque?
Adel Al-Kalbani, a priori, des informations que j'ai, aujourd'hui officie à Riyad, n'est plus...
Une sanction?
Je sais pas. En tout cas, il a eu, paraît-il, certains discours qui pouvaient gêner. Enfin, il a pris trop de liberté sur l'aspect politique. Mais il y a d'autres imams qui ont aussi une communication libérée. Saad El-Brek, par exemple, a une communication aussi totalement libérée.
Romain Abi, doctorant à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, que nous retrouverons plus longuement dans l'émission la semaine prochaine.
Pour nous écrire... orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la polémique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au sujet du pèlerinage de la Mecque fait la une des journaux panarabes.
Oui, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique en Iran, avait lancé un appel au monde musulman pour je cite, internationaliser l'organisation du grand pèlerinage. Alors, il a accusé l'Arabie Saoudite d'incompétence dans la gestion de l'événement qui réunit des millions de musulmans à la Mecque. Alors, près de 800 personnes avaient péri l'année dernière suite à un incendie, à l'effondrement d'une grue et à un piétinement. Alors, le grand moufti d'Arabie avait répondu en accusant les Iraniens d'être des mécréants. Et pour de nombreux éditorialistes de la presse arabe, les déclarations iraniennes reflètent en fait l'hostilité de l'Iran aux pays du Golfe avec lesquels il est entré en confrontation indirecte au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban. Des pays où les organisations chiites ont été les seules à soutenir l'Iran.
Et puis Alexandre, des journaux détaillent également les préparatifs saoudiens pour le grand pèlerinage.
Oui, l'innovation cette année, ce sont ces 15 hélicoptères qui vont se joindre aux dizaines de milliers de policiers et de militaires pour sécuriser le pèlerinage. Alors, des hélicoptères qui seront chargés de surveiller la fluidité de la circulation des pèlerins dans les divers lieux sacrés. Ils doivent notamment avertir la sécurité au sol des risques de bouchons humains afin de prévenir les bousculades qui, à plusieurs reprises, ont provoqué des piétinements et des morts. L'Arabie Saoudite accorde des visas de pèlerinage aux musulmans du monde au prorata d'un pour mille. À titre d'exemple, un pays de 100 millions de musulmans a droit à 100 000 visas.
Michel, nous commençons avec vous cette semaine par un sondage.
Oui, c'est un sondage publié par la seconde chaîne de télé en Israël, mais qui est repris par l'ensemble de la presse israélienne et qui mérite, Eric, d'être mentionné en bonne place dans cette revue de presse. Pour être extrêmement concis, on peut se contenter de chiffres 24-22, mais ce n'est pas du rugby, tout simplement le fait que pour la première fois, le Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, est dépassé. 24 pour Yesh Atid, le parti libéral et anticlérical de Yair Lapid, ancienne vedette de télé, mais qui ces derniers temps observe un profil bas dans les médias. 22 donc pour le Likoud, le parti travailliste qui jusqu'à présent, dans le cadre d'une alliance, était le principal parti d'opposition, est en chute libre. Deux partis de l'aile droite de la coalition remontent la pente. Alors Eric, rapidement, deux réflexions que l'on retrouve d'ailleurs chez tous les commentateurs. Même s'il arrivait en tête des élections, le parti de Lapid serait bien incapable de mettre sur pied une coalition viable. Et surtout, et bien sûr, il n'y a pas d'élection en vue à l'heure actuelle du moins.
Et puis Michel, la crise des travaux le jour du Shabbat se poursuit.
La guerre du Shabbat se poursuit effectivement. C'est d'ailleurs elle qui a provoqué les petits soucis dans ces sondages que nous évoquions à l'instant. Arrête se penche sur la décision de la Cour suprême israélienne. Le Premier ministre n'a pas son mot à dire en ce qui concerne les réparations des voies ferrées lors du jour de repos hebdomadaire. Pour Israël Hayom, c'est demain dimanche que l'on verra pendant le Conseil des ministres si les partis ultra-orthodoxes se sont assouplis ou si alors ils demandent toujours et encore des explications. Pour les chroniqueurs, la crise a été évitée cette fois car Benjamin Netanyahou a compris qu'il n'en sortirait pas forcément vainqueur. Et puis le Premier ministre israélien a d'autres problèmes en ce moment, en croire le quotidien Haaretz, qui en fait d'ailleurs la une de son édition de ce week-end. La police veut poursuivre plus en avant l'examen d'une affaire de fraude dans laquelle il serait impliqué.
Alexandre, la montée de l'islamophobie en Occident et notamment en France est le thème de l'éditorial d'Al-Quds Al-Arabi.
Oui, sous le titre « Du Burkini à la prison pour avoir dit Allahu Akbar », le journal note la montée des réactions islamophobes en Occident et notamment en France après les attentats. Il s'en prend notamment aux réactions de la droite française ainsi qu'au Premier ministre Manuel Valls. Al-Quds Al-Arabi rend par contre hommage au dernier discours du président François Hollande qui, selon le journal, refuse toute forme de stigmatisation des musulmans. La presse arabe avait suivi avec curiosité la polémique française sur le burkini. Certains éditorialistes y voyaient une preuve de l'intolérance française, d'autres une provocation de l'islamisme politique.
Michel, un scoop qui a pour protagoniste le président palestinien.
C'est une révélation de la chaîne publique de télévision en Israël, reprise par l'ensemble de la presse. Mahmoud Abbas était un agent du KGB dans les années 80. Il opérait à Damas et le président palestinien avait même un nom de code, Krotob, ce qui en russe signifie, paraît-il, taupe. Alors Eric, je vous l'ai dit il y a un instant, l'info est reprise dans tous les journaux, mais plusieurs commentateurs s'interrogent sur le timing de cette publication qui repose sur des archives soviétiques.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par François Porcheron. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. On se retrouve samedi prochain à la même heure, tout de suite un nouveau journal.